France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Hi, Dolly. Darling. I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Allons-y voir. Plutôt deux fois qu'une, puisque commence aujourd'hui, et c'est peu de dire que nous en sommes heureux, notre deuxième saison. On va donc cette année encore faire le plein d'imaginaire et se demander ce qu'on leur fait aux images quand on les voit et ce que ça nous fait à nous qu'elles nous regardent. Toutes ces questions, on peut les poser à partir d'un seul objet, un objet mystérieux, mutique, presque informe, mais fascinant, le boli de Diabougou. L'un des 3600 objets collectés par la mission Dakar-Djibouti de 1931 à 1933, dont le musée du Quai Branly expose encore, dépêchez-vous, c'est jusqu'au 14 septembre, ses contre-enquêtes. Collectés vraiment? Ne faudrait-il pas mieux dire prélevés, volés, ou plus précisément enlevés? Car ces objets de culte représentaient des puissances de vie qu'on tue à les enfermer dans les musées. En 1934, les surréalistes s'enthousiasment pour le boli et c'est leur regard esthétique qui en fait un fétiche. C'est une histoire de fascination, vous dis-je, c'est-à-dire de désir et de violence. L'histoire d'un objet fort à force d'être informe. L'histoire d'un fétiche, si vous voulez, si l'on désigne par ce mot, avec Georges Bataille, la volonté de se faire dominer par ce que l'on a créé. On en parle avec Jean-Paul Collein et Maureen Murphy, bientôt rejoint par notre sociétaire du jour, Manuel Charpie. On en parle en se demandant, comme Alain René et Chris Marker dans Les statues meurent aussi, en 1953, ce qui adviendra de nous quand les objets seront morts, usés d'avoir été tant et si mal regardés.
Un jour, nos visages de pierre se décomposent à leur tour. Une civilisation laisse derrière elle ses traces mutilées comme les cailloux du petit pousset, mais l'histoire a tout mangé. Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu, et quand nous aurons disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres, au musée.
Maureen Murphy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'histoire de l'art contemporain à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez notamment travaillé sur la mise en musée des arts africains en France, aux États-Unis, depuis 1931. De l'imaginaire au musée est paru en 2020 aux Presses du Réel. Mais aussi sur l'histoire croisée des pratiques muséales entre Paris et Dakar, l'art de la décolonisation, toujours aux Presses du Réel, en 2023. Et la même année 2023, vous publiez avec Felicity Bodenstein aux éditions de la Sorbonne, pourquoi restituer le cas des biens culturels africains? C'est évidemment une question qu'on va poser plus tard, évidemment, dans l'émission. Pourquoi restituer et pourquoi ne pas restituer dans le cas du boli?
Moi, je réagis par rapport au statut meurt aussi, qui dans lequel Alain René et Chris Marker utilisent cette belle image de la botanique de la mort pour parler de la culture des musées, qui est quand même paradoxale et contradictoire, mais qui résonne assez bien avec toutes les thématiques qu'on va aborder.
Bonjour Jean-Paul Collein.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste et anthropologue, directeur d'études à l'EHESS, auteur de nombreux travaux sur l'Afrique de l'Ouest, notamment au Mali. Vous avez étudié les cultes de possession, mais aussi le pouvoir de ces objets que vous n'aimez pas appeler fétiches, mais que vous appelez justement des objets forts. Le boli de Diabougou est l'un de ces objets forts auxquels vous avez consacré une monographie en 2009 avec Johan Lévy. Elle avait d'ailleurs été préfacée par Daniel Cordier. On en avait parlé de Daniel Cordier dans l'une des dernières émissions de la saison dernière. Bon, ben bien sûr que pour vous, vous êtes un anthropologue, donc vous allez nous expliquer comment ça marche, à quoi ça sert ces objets, mais il vous arrive pas parfois de les regarder et de les trouver beaux ?
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est... Moi, j'ai, évidemment, comme beaucoup de gens, j'ai pensé à Lascaux. Parce que c'est un côté, comme c'est une figure qui a vaguement une forme de bovidé, ça nous évoque tout de suite quelque chose de très ancien. Bon, c'est probablement un culte qui n'est pas si ancien que ça, mais...
Alors, on va d'abord essayer de décrire, même si c'est difficile. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux?
On a un objet qui pèse entre 15 et 20 kilos. Mm-hmm. Qui est massif, assez rare dans la notion de boli, qui est en fait un terme générique pour tous les objets forts de tous les cultes non musulmans du Mali. Et il y en a
beaucoup, oui.
Beaucoup. C'est un peu comme les vaudous, si on veut. Ça se ressemble sur, morphologiquement. Et donc, il a la forme d'un gros bison, on pourrait dire, avec une bosse sur le dos, et il est enrobé d'une croûte assez mystérieuse, qui est en fait fait de ce qu'on appelle abstraitement des matières oblatoires, c'est-à-dire des choses qu'on a collées dessus par offrande. Et la colle, en l'occurrence, c'est du sang de sacrifice. Donc c'est une croûte de sang coagulée. Et le volume contribue au prestige de l'objet, parce que plus la croûte est grosse, plus l'objet est ancien et donc réputé puissant.
Vous l'écrivez d'ailleurs, Jean-Paul Collaigne, dans votre article « L'Alliance, le Dieu, l'Objet » paru dans la revue L'Homme 2004. L'épaisseur de cette patine constitue un résultat tangible, d'autant plus prestigieux qu'elle est le signe de son ancienneté, et d'autant plus prestigieux aussi qu'elle est faite de, ben justement, de tout ce qu'on a fait pour liquider des êtres vivants.
Hein, c'est... Oui. Alors, la structure est complexe. Hein. Il y a des milliers d'ingrédients à l'intérieur de ça.
C'est-à-dire, c'est des cires.
Il y a surtout des objets symboliques qui viennent de la nature, c'est-à-dire des racines et des feuilles pilées et séchées, etc. Et aussi des dents, y compris des dents humains d'anciens chefs du Kono, dont la puissance, l'aura en tant que personne, est incorporé dans l'objet. Ça peut aussi être une phalange ou des choses comme ça. Et donc, on ajoute aussi à l'objet. Certains de ces bolis, on voit qu'il y a des ligatures avec des petits ajouts. Et alors, il faut dire aussi que cet objet bison-là, il est un peu abstrait d'un ensemble qui l'explique un peu, dans lequel il y a aussi un masque.
Ah oui, voilà. Et pour le comprendre, justement, il faut, et c'est l'objet de cette exposition de Dakar, Djibouti, aller dans les archives de la collecte. Et évidemment, la première source, la plus, on va y revenir, la plus impressionnante, la plus spectaculaire, la plus ambivalente aussi, c'est l'Afrique fantôme de Michel Léris, qui est le secrétaire de la mission. Et on lit ceci le 7 septembre 1931, avant de quitter Diabougou, visite du village et enlèvement, d'un deuxième Kono. Mon cœur bat très fort. Ça n'en est pas moins moche, il commence effectivement à douter. Il s'agit d'une des formes bizarres qui hier nous avait si fort intrigué, une sorte de cochon de lait, toujours en nougat brun, c'est-à-dire sans coaguler, qui pèse au moins 15 kilos, et que j'emballe avec le masque. Maureen Murphy, là on est effectivement dans l'historicité un peu poignante justement de cette mission. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Le récit qu'en fait Michel Léris dans l'Afrique fantôme va défrayer la chronique en quelque sorte, puisque là il témoigne des modes de collecte assez exceptionnels qui le révulsent, qui le choquent, mais auxquels il participe lui-même, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un véritable vol, de la saisie d'un objet fort à plusieurs titres, à la fois chargé, puissant, esthétiquement frappant, qui frappe les anthropologues, qui frappe la mission Dakar-Djibouti et dont ils vont vouloir s'emparer. Enfin, c'est là, dans les pages de l'Afrique fantôme, on a des détails sur les modes de collecte qui sont pour le moins problématiques.
Et ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que cet objet, il est immédiatement exposé au musée du Trocadéro en 1934, et les surréalistes s'enthousiasment, et les grandes revues, le Minotaure, Document, en font leur couverture, et d'une certaine manière c'est parti jusqu'à nous, Maureen Murphy.
Alors c'est ce qui est le paradoxe aussi, c'est ce qui constitue tout le paradoxe de cette mission, dirigée par l'anthropologue Marcel Griol, qui clame haut et fort qu'il ne s'agit de récolter que des objets témoins, qui renseignerait sur les cultures et non de faire une collection esthétique d'objets forts ou frappants. Et en même temps, on le voit bien là dans le choix de se saisir de ce kono. Ce sont aussi des objets plutôt anthropomorphes, alors que la plupart des konos sont plutôt amorphes, mais vous me contredirez peut-être, mais ou informes. Les anthropologues, malgré tout, sont attirés, et Griol en particulier, par des objets qui leur parlent, des objets d'exception, des objets sacrés, des objets puissants. Et le fait de rapporter cet objet en particulier répond à l'engouement des artistes d'avant-garde parisiens, surréalistes, et bien avant eux, Picasso et consorts ont en quelque sorte préparé le terrain. Et c'est dans cet engouement, disons, exotique, avant-gardiste, qui se veut moderne, que la mission d'Accardi-Bouti s'inscrit.
Et Griol, qui est évidemment un très grand ethnologue, il a le sentiment, dans cette mission qu'il s'est donnée lui-même, au-delà effectivement de sa dimension coloniale, de sauver une civilisation qui est déjà pour lui, qui est, vous dites, en tension, hein, qui est une société qui se sent déjà menacée.
Et doublement. D'abord par les guerres saintes, les djihads musulmanes, des gens venus du Sénégal, Fouta Toro et Fouta Djallon, et aussi Samori venu de Guinée, qui ont dévasté l'Afrique de l'Ouest et qui ont démoralisé déjà les cultes protecteurs qui étaient censés défendre les populations contre tout ennemi extérieur. Et ensuite, immédiatement après, ces forces musulmanes supérieures déjà aux forces typiquement villageoises, disons, sont à leur tour battues par l'artillerie française avec des canons, etc. Et les musulmans, c'était avec les chevaux, et les Français, c'est avec les canons. Et donc, du coup, double démoralisation, et aussi le fait qu'il y a eu une sorte de paix coloniale, donc la Pax, un peu comme la paix romaine en Europe. Et du coup, les jeunes ont voulu gagner de l'argent, s'ouvrir sur les marchés extérieurs, etc. Donc il y a eu une crise de génération.
C'est ça.
De succession.
Oui, cette mission d'Accardi-Bouti, elle commence en mai 1931, au même moment où s'ouvre l'exposition coloniale à Paris. Voilà. Et pourtant, c'est dans cette extrême tension politique de l'Afrique de l'Ouest qu'on doit la restituer. Écoutez, Alice Diop, elle participe à cette exposition. Il y a une vidéo très intéressante dans l'exposition qui dit le rapport qu'elle a, elle, à cette histoire.
Et j'ai été extrêmement passionnée et intéressée par la démarche de ce projet de contre-enquête parce que, d'une certaine façon, il formulait ce que j'étais en train, moi, de fabriquer dans mon projet d'adaptation, c'est-à-dire de construire un film qui serait contre l'archive de cette mission que constitue le texte de Michel Léry, c'est d'aller, de tenter d'exhumer en fait les parts de les silences, les ombres, les parts manquantes, les choses que Léry n'a pas vues, n'a pas pu voir ou a omis de dire. Et j'ai l'impression que mon projet d'adaptation, en tout cas, travaille autour de tous ces manques. Et finalement, cette contre-enquête, c'est aussi une façon de réinterroger la manière dont ces objets ont été pensés, dont ils ont été inventoriés, mais c'est aussi, ça donne accès à la réalité des conditions d'acquisition qui sont assez floues et très parcellaires dans la façon dont les récits s'en parlent, même s'il y a certains faits, comme le vol du kono, où effectivement, ils nous racontent à quel point, en fait, c'est littéralement du vol, et en fait, c'est ce qui fait de l'Afrique fantôme, pour moi, une œuvre très importante politiquement, parce que c'est quasiment un procès-verbal dont on peut se servir 80 ans après pour réclamer des objets qui ont été acquis de façon totalement fallacieuse et violente, mais sur la plupart d'autres objets, en fait, c'est assez flou. Et d'une certaine façon, et même les objets qui ont été achetés, on peut tout à fait aussi se rendre compte dans les contre-enquêtes qu'ils ont été achetés à des prix peut-être 10 fois inférieurs à la valeur réelle, et des fois la valeur est totalement inestimable. Et d'une certaine façon, mener ce travail au bout pour les conservateurs en Afrique, au Mali, au Bénin, ils pourront peut-être se servir de ce premier travail de contre-enquête pour réclamer ces objets. Et au fond, cette première restitution de papier qui semble si tragique et ironique pourrait finalement donner lieu à une réelle restitution. C'est ce qu'on peut imaginer, c'est ce qui pourrait être magnifique, et ça pourrait être vraiment presque la finalité. Enfin, en tout cas, pour moi, ce travail de contre-enquête, une des finalités, ce serait celle-ci.
Alors, cette contre-enquête, on le comprend, elle donne aussi l'occasion de contre-champs Maureen Murphy, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'on ne voyait pas, ce qui était invisibilisé, les autres acteurs en fait de la mission Dakar-Djibouti. Bah, d'abord les ethnologues femmes comme Deborah Lifshitz qui rejoint la mission en Éthiopie, qui sait l'amharique et qui est une très grande personnalité scientifique. Et puis tous les informateurs, les guides, les interprètes. Il y a Mamadou Keïta qui est un jeune écolier de 13 ans. Et puis il y en a un autre plus extraordinaire encore, c'est Antadou Dolo, le paysan musicien. Mamadou Vade, l'ancien chef mécanicien des chemins de fer, qui sait de nombreuses langues, arabe, peul, wolof, et puis qui est poète, conteur, qui collecte des objets quand il ne les fabrique pas lui-même, qui est un peu roublard aussi. Donc, il y a tout ce petit monde, au fond, de la mission, qui complique singulièrement le tableau.
Et c'est vrai que cette exposition révèle cette part manquante ou cette part invisible d'une mission dont on ne parlait pas. Je pense que ce qui est important aussi dans cette exposition, c'est la méthode qui a été adoptée de collaboration avec des chercheurs et des conservateurs sur place qui ont tiré le fil de l'enquête jusqu'au petit-fils du propriétaire du Kono, justement, qui a été interrogé et qui permet aussi de faire des allers-retours entre passé et présent, voir comment le Kono aujourd'hui est considéré et questionner les modèles d'acquisition. Il y a beaucoup de choses qui restent très floues. Et pour revenir et rebondir sur cette idée d'urgence qui motivait Marcel Griol et toute l'équipe, ce leitmotiv de cette idée selon laquelle ces cultures seraient en voie de disparition, il y a quand même un paradoxe énorme à affirmer de manière répétée cet élément pour justifier la collecte, au sens où, en fait, on va protéger ce qu'on est en train de détruire, en quelque sorte. Et par la collecte, on détruit, mais il y a un côté presque schizophrène.
Et de Marker.
Qu'ils soulignent très bien dans leur film, les statues meurent aussi.
Mais tout est ambigu quand même dans cette affaire, Jean-Paul Collein, parce qu'on voit bien que, voilà, il travaille quand même pour le ministère des colonies.
Oui, oui.
Voilà. Mais eux-mêmes sont anticolonialistes, férocement anticolonialistes.
Griol, ça se discute, parce que
non,
il était conseiller du ministère des colonies.
Mais Léris, oui.
Léris est devenu. Alors, à
son anticolonialisme va croissant.
Et c'est la rencontre avec Aimé Césaire, je pense, qui a été décisive.
Mais après la mission, et c'est pour ça, effectivement, que la parution de l'Afrique fantôme le brouille avec Griol, c'est
ça? Le brouille, oui. Alors, la version qu'on a aujourd'hui de l'Afrique fantôme, c'est important de le souligner parce qu'il y a une petite opération faite par Jean Jamin. Qui était un éditeur du Miroir de l'Afrique, où il a ajouté des lettres de Léris à sa femme. Et dans ces lettres, il fait un portrait de la brutalité coloniale bien plus dur que dans l'Afrique, dans son journal lui-même. Donc, ça a été ajouté en marge du texte. Et il y a cette idée de Marker qu'on rend un culte à ce qu'on détruit, enfin, qui est quand même quelque chose inhérent à une logique muséale.
Oui, et puis de toute façon, cette histoire, elle est réinventée, elle est reconstruite au fur et à mesure. Écoutez d'ailleurs ce que Michel Léris en disait en 1968.
Je voulais absolument changer d'atmosphère, voir d'autres choses, voir d'autres gens, prendre contact avec une autre civilisation que la civilisation occidentale, que comme tous les surréalistes, je peux presque dire que je vomissais. Parmi les injustices sociales, enfin, qui sont très nombreuses et très fortes, et qui peuvent révolter, celle qui m'a toujours le plus révolté, c'est l'injustice coloniale. Le mépris qu'ont des gens qui se trouvent tenir le haut du pavé parce qu'ils sont peut-être de meilleurs industriels que d'autres, c'est tout, de meilleurs mécanos, enfin, je dirais presque, ce mépris enfin, dont ils écrasent des gens au moins aussi civilisés qu'eux, enfin, d'une façon différente, et qui, à beaucoup d'égards, même pourraient leur donner des leçons.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Il ne nous est pas encore arrivé d'acheter à un homme ou une femme tous ses vêtements et de le laisser nu sur la route, mais cela viendra sûrement, écrivait Michel Léris dans l'Afrique fantôme. Vous commentez d'ailleurs cela dans votre livre, Maureen Murphy. On peut lire l'Afrique fantôme comme la chronique d'une prise de conscience. Et en même temps, l'ambivalence, elle demeure, y compris d'ailleurs dans la réception plus tardive par les artistes, par les musées de cet art africain.
C'est tout le paradoxe de cette mission et de l'Afrique fantôme et du rôle de Michel Léris en quelque sorte. Michel Léris, comme on l'a entendu dans l'extrait, part révolté, curieux, dans le rejet aussi d'une forme de culture occidentale. Il arrive à Dakar et il sillonne la région jusqu'en Éthiopie. Il est écœuré par ce qu'il découvre. Il est animé par un sentiment antiraciste et en même temps il participe à une mission qui est pétrie des théories racialistes du moment. Il a des convictions anticoloniales et en même temps la mission est financée par le ministère des colonies. Donc oui, c'est un homme et une mission pétrie de contradictions, mais son rôle, il est vraiment intéressant et contradictoire. Il rentrera en conflit avec Marcel Griaul, qui n'appréciera pas les propos qu'il rédige dans l'Afrique fantôme. À son retour, malgré tout, il va diriger le département d'Afrique du Musée de l'Homme. Enfin, oui, il y croit malgré tout. Il s'accroche et il dialogue aussi avec tous les artistes parisiens qui ont nourri cette veine et cette ouverture sur l'ailleurs.
On est quand même très indulgent avec les états d'âme de tous ces... on est à leur chevet, oui. Les pauvres, ils n'avaient pas tout compris, ils étaient plus racistes qu'ils le pensent. Enfin, quand même, reprenons cette histoire, Jean-Paul Collet, vue des Africains, de ceux qui ont été spoliés.
À l'époque, ils étaient évidemment très, très choqués, mais en même temps, les vainqueurs prennent les objets forts.
Oui. Bon,
c'est pas scandaleux dans une guerre. Ils sont battus, on a abattu leurs fortifications à coups de canon, on a tué les chefs, et on prend les objets forts. C'est le butin. C'est le butin de guerre. Et par la suite, évidemment, les gens se sont islamisés. Et donc, les gens qui devraient être directement les plus intéressés à recevoir des objets restitués n'en veulent plus.
Alors ça, on va en parler. C'est tout le paradoxe.
Parce que c'est des objets sataniques.
Oui.
Ils ont accepté les versions chrétiennes et musulmanes pour dire un boli en bambara, on peut dire Sitani. C'est Satan.
Oui.
Ça vient de l'arabe, et c'est communément admis.
Mais à plusieurs reprises, vous avez parlé de Kono, c'est-à-dire effectivement de ce culte. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu dans la structure animiste comment ça se fait, même si c'est compliqué, je le sais.
C'est très compliqué parce que là, vous avez mis la logique sur le regard et la richesse que peut nous procurer un regard, mais c'est des objets interdits à la vue aussi.
C'est ça.
Donc c'était
on ne devrait pas les voir.
On ne devrait pas les voir.
Ils étaient dans des sanctuaires.
Déjà, là, il y a une sorte de chose étonnante et fascinante, c'est qu'on fabrique un objet complexe avec des masques extraordinaires, etc., que une bonne partie de la population ne peut pas voir, les non-initiés et les femmes. Il y a des villages où les femmes pouvaient voir le kono, mais en général, elles ne peuvent pas. Et parce qu'en fait, ce sont des entités féminines. On épouse un kono. Donc la femme du chef du kono est la co-épouse du kono. Mmh. Et si on épouse un kono, c'est un homme qui veut, disons, améliorer son statut social par un objet prestigieux et qui le fasse craindre aussi. Et donc il épouse une surpuissance plutôt féminine. Mais c'est aussi pour la domestiquer, pour la mettre à la loi conjugale d'une société patriarcale. Donc c'est pour renforcer les objets forts des hommes, pas des femmes.
Et c'est ça, et c'est un paradoxe, effectivement, de voir ces objets qui devaient être invisibles, qui étaient d'autant plus forts qu'ils étaient invisibles, et qui, au fond, devaient aussi protéger contre le vol. Donc le fait même qu'on puisse les dérober les affaiblit presque définitivement. Mais au fond, pour comprendre les conditions de ce qu'on peut effectivement pudiquement appeler une collecte, il peut être aussi utile, Maureen Murphy, de s'éloigner un peu du boli et de comprendre, parce que la force de cette exposition, c'est de nous faire saisir que la diversité des objets. Hein, d'ailleurs, il y a aussi des archives, il y a aussi des manuscrits, il y a aussi des animaux, il y a des langues. Hein, c'est la mission ethnographique et linguistique, elle s'appelle comme ça. Et vous vouliez vous arrêter sur des objets, c'est vrai, magnifiques, les retables éthiopiens. Donc là, on est au bout du voyage du XVIIe siècle.
Alors, on parlait d'objets forts précédemment. C'est vrai que le diptyque miraculeux de l'église d'Abba Antonios est également un objet fort, au sens où c'était un objet, une peinture à laquelle on attribuait des vertus miraculeuses. Et c'est un diptyque qui a fasciné Griaule, qui l'a attiré, qui l'a frappé immédiatement. Griaule était dans la région dès les années 28-29. Il revient en 31-32. Et ce sont des œuvres qu'il souhaite, qu'il veut posséder, qu'il veut démaroufler. Alors, de quoi s'agit-il? De peinture réalisée dans la région de Gondar, dans le style copte, en fait, qui date du XVIIe, XVIIIe siècle, qui se caractérise par une forme de hiératisme, de frontalité, une forme de disproportion aussi des têtes par rapport au corps, des œuvres très colorées, très vives, là, qui représentent la lamentation de la Vierge, la mise au tombeau et la descente de la croix du Christ, dans une veine éthiopienne typique des peintures de Gondar, et qui vont donc fasciner Griaule et l'équipe, qui va décider d'échanger ses peintures, qui étaient en train de s'abîmer, contre des copies réalisées par un peintre surréaliste, Gaston Louis Roux, qui va réaliser des copies à l'emporte-pièce et à la chaîne, presque, pour remplacer les originaux.
Ouais. Donc,
l'argument, c'était l'urgence, encore une fois, on va protéger votre patrimoine.
On va vous sauver.
On va vous sauver, en quelque sorte. En même temps, en démarouflant les peintures, ils les abîment. Ils arrachent certains morceaux des peintures. Il manque aussi certains détails du panneau, comme la représentation du commanditaire qui a disparu. C'est presque aberrant quand on y
pense. C'est aberrant, et puis c'est aussi l'inverse, d'une certaine manière, puisqu'on parle d'histoire du regard. Vous avez raison de le rappeler, Jean-Paul Collin. Ce qui les attire vers le Boli, c'est qu'ils n'y comprennent rien. Ce qui les attire vers ce retable chrétien, c'est qu'ils croient s'y reconnaître.
Mmh. C'est vrai que ce sont des œuvres figuratives, assez atypiques par rapport à la catégorie d'art africain qui ne veut rien dire, en fait, qui est vraiment une catégorie qui veut tout et dans laquelle on range tout et n'importe quoi, de la petite cuillère au tableau copte, en passant par le masque ou le boli. Mais c'est vrai qu'ils choisissent, et il y a un principe de sélectivité, d'œuvres qui correspondent à des goûts, malgré tout.
Sous le ciel gris des villes grises qui brisent nos pauvres cœurs, jamais d'espoir, jamais de joie, notre âme ploie en sa douleur. Fermons les yeux, que tout s'efface, l'espace redevient bleu dans l'infini. Le soleil d'Afrique sur les tropiques nuit.
Sous le ciel d'Afrique, chaque instant semble meilleur qu'ailleurs. Et pour nous, tout est désir, plaisir, au pays ensorceleur. Son appel magique fait surgir devant nos yeux des jeux et des danses où toujours l'amour, mais sans rythme plein de feu. Une voix en moi s'élève et s'entrève, elle dit, tu ne dois chercher ton rêve. Chaque instant semble meilleur qu'ailleurs. Et pour nous tout est désir, plaisir, au pays bleu du bonheur.
Joséphine Baker, Sous le soleil d'Afrique, 1935. On n'est pas sans rapport avec notre sujet, Jean-Paul Collin.
Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est intéressant d'ailleurs ce que Maureen disait tout à l'heure des intellectuels français aussi qui étaient un peu en rupture de banc et qui, en fait, les ethnologues eux-mêmes étaient proches des surréalistes.
Oui.
Et donc c'était le même monde. Léris était l'ami de Karl Einstein.
Et Joséphine Baker elle-même, il y a des photos célèbres.
Il y a une photo avec un masque du Kono,
oui.
Pas de boli, on parle pas du boli, mais un masque. Et donc elle fait ça naturellement, comme si c'était un peu ses origines à elle aussi. Et donc il y a une sorte de... bien sûr, il y a un pillage colonial, mais il y a une volonté assez nette de réhabiliter des cultures différentes qui ont été méjugées et mal appréciées.
Alors, on parlait tout à l'heure de l'informe. Et effectivement, c'est
Bataille.
C'est Georges Bataille qui en a parlé. Oui. Et d'une certaine manière, cet objet, il est fort d'être, de représenter quelque chose d'irreprésentable.
Exactement.
Hein, qui est une puissance fauve oui. Dans la spiritualité Kono. Donc, si on suit par exemple Philippe Descola dans Les formes du visible, il reprend cet exemple et il dit, ben voilà, il ne représente pas au sens figuratif, il ne ressemble à rien.
C'est même une contestation de la représentation.
Voilà, mais elle représente au sens politique, c'est-à-dire elle est le représentant de, c'est ça
oui.
en fait
c'est, oui, c'est un peu métonymique, c'est la partie pour le tout.
Oui.
On n'a pas la représentation, donc on prend des indices.
On mandataire en somme.
Et l'informe n'est pas quelque chose dépourvu de forme, c'est quelque chose qui peut prendre toutes les formes. C'est une instabilité de forme, ce qui est plus menaçant. Et donc, un des objets du Kono qui n'est pas celui-là, le gros boli bovidé, a une forme phallique très évidente. C'est un phallus en matière boli, c'est-à-dire du sang coagulé. Et à l'intérieur de ce phallus, il y a une statuette de femme. Mmh. Donc, il y a aussi tout un truc sur le pouvoir génésique. Comment on fabrique des êtres? Donc c'est une réflexion sur des choses qui sont pas seulement des choses, mais aussi des êtres.
Donc toute cette histoire, Maureen Murphy, c'est évidemment l'histoire des puissances, de l'engendrement, du point de vue effectivement des sociétés animistes africaines, et du point de vue du regard occidental qui se pose sur ces objets, c'est la question de la représentation, de l'informe, et donc ça va percuter, en somme, le moment contemporain des avant-gardes. Et c'est là où, effectivement, le boli trouve une seconde vie, on va dire. Enfin, il est mort pour les Africains, parce qu'il est enfermé, il a été enlevé, le mot est fort. Mais voilà, il est dans les musées, il ne cessera pas de l'être. C'est devenu un chef-d'œuvre, et voilà, le clou du spectacle colonial. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'en font les artistes?
Ils projettent sur cet objet, enfin leur regard, leur passion, leur délire, leur goût aussi. Mais enfin, si cet objet est informe ou anthropomorphe, c'est aussi parce qu'il n'est pas censé représenter la divinité. Et beaucoup de ce type d'objets sont censés être, enfin sont des réceptacles en quelque sorte. Ne sont pas censés figurer l'esprit, mais l'accueillir. Et c'est à ce titre que la forme prend forme en quelque sorte et va se transformer, muter dans ses pérégrinations en Europe lorsque l'objet accède aux vitrines des musées et rencontre le regard des artistes. Là, c'est vraiment presque une seconde vie.
Et il continue à être enrobé, en fait. Il continue à être augmenté du regard qu'on...
Amusant que dans l'Afrique fantôme, Léris ne prête aucune attention esthétique à ces objets. Oui. Il en parle avec des termes un peu péjoratifs. Cochon de lait dans un pays musulman, quand même, c'est pas très...
C'était pas bien trouvé.
Et puis le nougat...
Ça ressemble à tout, sauf à un cochon.
Oui, oui. Et le nougat brun, c'est pas terrible non plus. Enfin, et il voit pas ça. Il le verra après, mais très vite quand même, parce que c'est lui qui a fait le deuxième numéro du Minotaure, si je me trompe pas. Maureen va corriger si je me trompe.
Oui.
Et donc, il est pour beaucoup dans l'esthétisation de l'objet, avec ses amis surréalistes, maçons, Bataille, tous les dissidents d'André Breton.
C'est ça, qui se réunissent autour de la revue Document et qui sont peut-être plus intéressés par les arts des Amériques et d'Océanie que d'Afrique.
Oui.
C'est plutôt la première génération des artistes qui s'emballent pour les arts d'Afrique. Mais dans ces années-là, c'est la revue Minotaure, Document, Cahiers d'art qui relance et qui sont les supports de cet engouement.
C'est là d'ailleurs, vous faisiez une allusion tout à l'heure, Jean-Paul Collin, entre le vaudou et le Kono.
Oui.
On a effectivement un parallèle.
On a un parallèle, parce que morphologiquement, ça se ressemble. C'est absurde d'essayer de faire une liste de tous les bolis. Elle est infinie. Elle est un peu tarie, puisque c'est quand même une culture qui s'éteint, ou une religion. Mais dans le vaudou, non. Au contraire, c'est relancé. Oui. Parce que l'islam n'a pas le poids qu'il a au Mali. Et donc c'est devenu un élément vif de la culture nationale. Alors qu'au Mali, c'est plutôt une sorte de maladie honteuse, l'éboli.
Alors écoutez ce que dit le cinéaste mauritanien Abderrahman Sissako, qui a écrit un opéra intitulé Le vol du Boli, créé au théâtre du Châtelet il y a 5 ans, je crois, avec le musicien britannique Damon Albarn et la grande chanteuse malienne Fatoumata Diawara.
Est-ce que aujourd'hui ce boli doit revenir au Mali, selon vous ?
Symboliquement, peut-être symboliquement, parce que lorsqu'on dépossède, lorsqu'on vole, il faut rendre, voilà, surtout si on reconnaît le vol. Mais j'ai plus envie, je pense qu'on peut, symboliquement, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que ce boli un peu partout. Hein. On a vu avec les pièces.
Il y a eu la restitution récente au Bénin de 26 pièces,
ouais,
qui sont exposées maintenant.
26 parmi des milliers. Hein, en tout cas, hein, mais 26 aussi choisis, pas par le Bénin, choisis encore par la France, même si ce tact est important. Absolument. Hein, et je pense que c'est un des gestes les plus forts aussi du président Macron à ce moment-là. C'était courageux de le faire et c'est formidable. Mais de là à faire circuler trop vite, prendre ici pour mettre là-bas, je ne pense pas que ça soit quelque chose d'urgent pour l'Afrique aujourd'hui. Mais parce que le regard même voilà, d'un boli dans un théâtre à Paris, au Quai Branly par exemple, un boli, ça n'a pas le même sens. Hein. Et ça, le théâtre, le spectacle, le vol du boli le dit. Hein. Ça n'a pas le même sens parce que ce sont des objets morts qui ont une valeur peut-être pour le regard européen, que la forme est magnifique, enfin, il y a tout un mystère, mais ça ne joue plus ce rôle-là. Donc, créer un regard de pareil comme en Europe, des musées classiques comme ça, je ne pense pas que c'est ça qui va marcher.
Abderrahman Sissako au micro de France Culture en 2022. Voilà, le problème est posé, Maureen Murphy. On a raconté l'histoire d'un objet qui s'était dévitalisé de son, voilà, de son sens sacral, qui se revitalisait d'un sens esthétique. C'est pas la question de la restitution en soi, c'est la question de ses conditions. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je voudrais déjà rappeler ou souligner le fait que dès les premiers temps de la colonisation, les résistances par rapport aux prédations coloniales en termes de patrimoine ont été exprimées, émises, et que ça n'est pas un débat nouveau en fait. Ça ne date pas de 2017 et du discours du président Macron à Ouagadougou. Dès les premiers temps, ces résistances s'expriment, et je pense qu'il faut aussi bien distinguer l'aspect, disons, juridique et l'aspect propriété patrimoniale, bien inaliénable. Là, en ce moment, la loi cadre sur la restitution des biens culturels est en train d'avancer dans le sillage des lois qui ont permis la restitution des biens culturels spoliés aux Juifs et les restes humains. Et puis, les questions de méthode, en fait, ce débat autour des restitutions, l'exposition d'Akar Djibouti, sont des occasions de repenser les termes de la coopération, de la collaboration, des façons de travailler avec les conservateurs, les chercheurs concernés par ces objets dans les pays d'origine. Enfin, cette mini-révolution, elle est en marche et elle est précieuse aussi dans les façons. Elle a bouleversé les façons de travailler, de nommer, de penser, de faire des recherches sur la provenance des objets. Donc, il y a plein d'aspects à ce débat, éminemment politique évidemment, mais également méthodologique, éthique et presque épistémologique.
Il y a des aspects qui sont exclusivement français. La question effectivement de l'inaliénabilité, ça, elle avait été pointée dans le dans le rapport Béni Savoie-Felwinsar. Et puis, il y a la question générale. Alors, effectivement, Jean-Paul Collin, vous me disiez tout à l'heure qu'on ne croit pas que je suis contre la restitution. Simplement, je dis, et c'est un petit peu ce qu'on a entendu aussi avec Abderrahmane Sissako, que il n'y a pas nécessairement une pour le Boli, hein, on parle oui. du Boli là, d'intérêt à le déplacer d'un musée à l'autre, en fait. C'est la question du musée.
Même ça, je suis pas. Je pense quand même qu'il y aurait une certaine logique
D'accord.
à ce que les écoliers de Bamako puissent voir ces objets et réfléchir sur ce que ça signifie et s'intéresser à cette culture. Alors maintenant, on est dans un pli assez islamique.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a les difficultés françaises.
Pas seulement l'affaire du djihad et tout ça, mais aussi l'influence croissante de ce qu'on appelle un peu vulgairement et à tort wahhabite, qui est un islam réformé, qui interdit tout ce qui les ajoute soufis. C'est-à-dire la recherche de se rapprocher de Dieu par une démarche personnelle, ou le droit du croyant d'avoir sa démarche. Et donc tout ça est battu en brèche, mais ce sont des plis de l'histoire. Moi, j'ai pas de doute qu'à un moment donné, le Mali va chercher
Bien sûr.
Des choses qui lui sont propres.
Mais pour l'instant, la difficulté, c'est ce que vous dites aussi, oui. Jean-Paul Collin, c'est ce que dit d'ailleurs le directeur du Musée National du Mali, qui a fait aussi sa contre-enquête, c'est que le Boli, c'est dévalorisé sur le plan cultuel.
Oui. Alors, là aussi, il y a une chose choquante, c'est que tout le monde est sur le Boli de Diabougou, mais il meurt des sanctuaires du Kono chaque année au Mali. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Alors, il y a beaucoup de causes à ce déclin, c'est une sorte de désistement. Il n'y a plus que les vieux qui tiennent les cultes, les jeunes se sont convertis pour pouvoir voyager, d'avoir un passeport, disons, plus prestigieux qu'une religion locale, et il n'y a plus personne pour faire les rituels et tout ça, qui se raccourcissent, et quand un vieux meurt, souvent le sanctuaire tombe en ruine et les objets sont vendus plus ou moins discrètement. Et là aussi, c'est choquant financièrement, aujourd'hui. Parce qu'on a à Sotheby's des trucs de 200 000, 300 000 euros pendant que le village claque du bec.
Au fait, je me posais une question, ils sont où les sociétaires? Ils sont partis en vacances, non? Enfin, peut-être qu'il y en a un qui nous a envoyé une carte postale. Tenez, écoutez ça.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, c'est une brève séquence, 15 secondes tout au plus. Je l'extrais d'un film de 1946 intitulé A Night in Casablanca. Au coin d'une rue, Harpo Marx s'y tient désœuvré à la gauche de l'image, le bras perpendiculaire au corps et la main posée à plat sur le mur d'une maison dont le droit longe le bord du cadre. Par la droite, entre un agent de police marocain, c'est-à-dire exactement le même agent de police que dans n'importe quel film des Marx Brothers, mais coiffé d'un fez. L'agent toise Harpo et lui lance « What do you think you're doing, holding up the building ?» Ce qu'on pourrait traduire par « Alors comme ça, encore en train de tenir le mur ? » Harpo confirme par de vigoureux hochements de tête, insensible à la suggestion de circuler, implicitement contenue dans cette question toute rhétorique. L'agent décide alors de passer de la parole au geste, il empoigne le contrevenant par le coude, le décolle du mur, et voilà que l'expression de Harpo passe du franc sourire à l'inquiétude, car en effet, la maison à laquelle il s'appuyait, laissée à elle-même, décide d'entendre la formule du policier, littéralement, et n'étant plus tenue, elle renonce à tenir. Elle s'affaisse, dans un grand effondrement de tuiles en carton-pâte, de trompettes dramatiques et de poussière de plâtre, qui tire le rideau sur la scène du gag. Tenir les murs. Il faudrait dénombrer systématiquement ces moments du cinéma burlesque où, peuplant un cadre supposé intangible, de pauvres airs trouvent l'étrange capacité d'en inquiéter la permanence. C'est la maison de Charlie Chaplin dans La Ruée vers l'or, maison en équilibre au bord d'une falaise et qui oscille dangereusement sitôt que Charlot s'y déplace. C'est la maison de Buster Keaton dans Steamboat Bill Jr., maison dont la façade bascule face caméra, laisse à nu l'architecture des pièces, et devant elle, Buster, debout tout droit, ne doit d'avoir la vie sauve qu'à venir s'encastrer, immobile, au point de chute exact d'une minuscule imposte. Au cœur d'un premier XXe siècle, dont il était vite devenu patent que le monde n'en sortirait pas intact, Au moment à peu près où le philosophe Edmund Husserl intitulait l'un de ses textes « La terre ne se meut pas », le burlesque méditait une vérité inverse. D'abord, le statut de protagoniste n'est pas l'apanage des seuls êtres humains. L'univers où ils évoluent n'a pas vocation à rester autour d'eux impassible comme une toile peinte. Ensuite, entre leur pérégrination et l'espace qu'ils occupent, entre les lieux et la manière dont des êtres drôles et contrefaits s'en trouvent soustraits, expulsés, toujours plus ou moins en fuite, le point fixe n'est pas celui qu'on croit. Qu'un clown lunaire et mutique se voit enjoint de circuler et le toit qui l'abritait s'effondre. Qu'un clochard rampe vers la porte et sa cabane se met à danser. Une seule figure vous manque et l'être est déboîté. En français, le verbe « tenir » dit à la fois l'attachement et le soutènement. J'y entends quelque chose de cette étrange réversibilité, privée de leurs habitants empathiques, arrachés, comme on dit, à l'affection des leurs, les espaces eux-mêmes cessent de tenir debout. En attendant, je lis dans le beau catalogue de l'exposition « Mission Dakar Djibouti, contre-enquête » qu'au village de Diabougou, la maison où fut enlevé le boli, ils ne disent pas « volé », ils disent « enlevé », que cette maison, donc, est, je cite, « encore visible, mais dans un état d'abandon et de délabrement avancé, bien que sa structure soit en place, le toit couvert d'herbe s'est affaissé et des pans de murs se sont écroulés ». Fin de citation. Pour inverser la fameuse sentence d'un président de la République qui, en matière d'art extra-occidental, fut assez preneur, parfois, quand c'est nous qui brûlons, notre maison regarde ailleurs.
France Culture. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
On les retrouve avec plaisir les cartes postales de Mathieu Pot-Bonneville, directeur du département culture et création de Beaubourg. Et puis en plus, vous avez entendu Jean-Paul Collin, c'est ce que vous disiez. C'est
et
le mur qui tombe parce que le boli est tombé.
D'autant plus heureux de son intervention qu'il a remarqué le terme « enlevé » plutôt que « volé ». Parce qu'on enlève un être, on n'enlève pas un objet.
Une grande compagnie dans un grand continent.
Air Afrique.
Voilà, Air Afrique 1969, c'est un peu votre hymne, ça, Manuel Charpie, non?
Oui.
Ouais. Bonjour.
Ouais, bonjour.
C'était ma manière de vous dire bonjour, de vous lancer, mais enfin, je peux le dire plus classiquement. Bonjour, Manuel Charpie. Vous allez nous parler de quelque chose, de vos vacances, vos photos de vacances?
Oui, mais un petit détour avant, par le boli, quand même. En apprenant qu'on allait faire une émission sur le boli, j'ai pensé aux images, aux rayons X, qui ont été faites en 2015. Image étrange, qui était présentée ensuite dans l'exposition « L'anatomie des chefs-d'œuvre » au Quai Branly. Et exposition qui m'était parfois un peu mal à l'aise, qui était le fruit d'un partenariat initié par Christophe Moulera entre le musée et des institutions médicales pour utiliser des scanners médicaux à rayons X, des IRM, des échographes à ultrasons.
Et le boli est passé par l'IRM.
Et absolument, le boli a été passé par l'IRM. Il a été repassé d'ailleurs en 2019 par Philippe Charlier, pour ne pas le nommer, avec une mise en scène de la science,
avec très scientiste.
Blouse blanche, matériel médical, etc. Et le médecin, d'ailleurs, dit qu'il procède à une autopsie virtuelle, autrement dit une imagerie médicale, scientifique, pour percer, je cite, les mystères des œuvres et leurs secrets.
Enfin, vous êtes un historien du 19e siècle, la photographie, c'est pas nouveau quand même, deux ans.
Non, effectivement, c'est pas nouveau, c'est un fantasme qui date du 19e siècle.
Le scientiste aussi, oui.
Et scientiste aussi, évidemment. Un moment où la photographie en général est censée révéler ce qu'on ne voit pas. On peut penser à la microphotographie, aux photographies de la Lune avec un télescope, aux photographies spirit même, on peut aller jusque-là, et à la photographie du mouvement. Et tout ça, en un sens, culmine avec la photographie du rayon X, c'est-à-dire la capacité à saisir sur une plaque, à enregistrer sur une plaque photographique les rayons X, l'image donnée par les rayons X. Ça a lieu en 1895, et très vite, dès l'année suivante, grâce à Edison, ça devient aussi un spectacle de foire, et on va pouvoir observer dans les foires les corps en mouvement vus par le rayon X.
Mais dès cette année 1896, d'ailleurs, les œuvres d'art non plus, elles n'y échappent pas.
Elles n'y échappent pas non plus, donc on a ces spectacles de foire, et à côté, on va passer sous le rayon X des momies pour essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur, avec tout cet imaginaire de la momie et du mystère qui va avec. Et puis très vite, on va s'occuper aussi de sculptures et de tableaux. A priori, de ce que j'ai pu trouver, les premiers essais pour les tableaux sont faits par des médecins amateurs d'art, de vrais médecins, mais amateurs d'art, au début de la Première Guerre mondiale, grâce à des sondes de radiographie mobiles. Puis dans les années 20, on va faire ça au Louvre, avec des tableaux de la Renaissance notamment. On fait un discours à l'Académie des sciences, et très vite, on crée un laboratoire au Louvre qui va s'occuper d'utiliser ces nouvelles sciences, ces nouvelles techniques pour scruter les images. Ça va devenir le centre de restauration des musées de France qui existe toujours aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qu'on attend en fait? Qu'est-ce qu'on espère d'une certaine manière de cette technique qui va faire voir l'invisible?
Alors souvent, effectivement, c'est d'un côté, oui, récolter des informations sur les matériaux, les repeints, les couches, etc. Mais aussi voir les esquisses, les repentir. Et finalement, souvent, il y a un fantasme qui est celui de percer le secret de l'œuvre. Et finalement, de comprendre aussi le mystère de la création. Là, je cite la presse, et je pense notamment à tout ce qui a été publié au moment du passage au rayon X de la Joconde en 2019. Et c'est pas
qui avait à peu près rien donné.
Non, le résultat est très décevant, je le dis, si vous allez voir sur Internet les résultats. Et c'est un peu pareil pour le Boli, en fait. On voit pas grand-chose sur les images de nouveau.
Non. Moi, j'en ai parlé sur le terrain aux gens en disant « qu'est-ce que vous pensez si on pratique ces radiographies ?» Et ils se sont moqués de moi en disant bah, « si vous êtes bête au point de penser que vous allez comprendre quelque chose parce que vous allez voir une photo de l'intérieur, ça ne veut rien dire. » Effectivement, dans une radiographie, on ne voit pas quelle plante a été utilisée, on ne voit pas quelle est l'incantation sacrée qui a permis de la rendre active. Il y a des tafos, c'est-à-dire qu'on prend... on ne sait pas si... Mais ce n'est pas d'origine musulmane, d'ailleurs. Des cordes qu'on noue, on fait un nœud. Et chaque fois qu'on fait un nœud, il y a des paroles secrètes. Et c'est l'ensemble de ces nœuds qui fait que quelque chose s'est noué. Genre, la radio, silence là-dessus.
Mais peut-être quand même que sur certaines images religieuses, alors là, le rayon X peut nous donner le fin mot de l'histoire, non?
Alors, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, ça a un effet dans l'espace public. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en 2015, au moment où on va... passer le Boli au rayon X, on a en même temps l'exposition du Saint-Suaire à Turin, ce suaire fabriqué au XIVe siècle en Champagne. Et au moment où il est montré en 2015, avec des millions de visiteurs, je le rappelle, à l'entrée du parcours, vous avez une image très étrange en 3D, une sorte de plastique extrudé, qui a été fait, nous dit-on, en 1978 par la NASA. Donc vous voyez, toute une imagerie scientifique qui est censée donner une sorte de crédit. Et ça va fabriquer comme ça de la relique. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on bascule de la croyance à la relique, de l'image scientifique à la croyance.
On pourrait peut-être faire une émission sur le Saint-Suaire, c'est une bonne idée ça.
Je crois qu'il y a matière, surtout que c'est une conversion aussi technique, le Saint-Suaire. Donc je vais faire court sur le sujet, mais Pierre-Olivier Dittmar, l'historien, l'a bien montré, le Saint-Suaire est oublié au XVIIIe et XIXe siècle, et puis en 1898, le maire de Parme, un photographe amateur très très professionnel dans ses techniques. Segundo Pia fait une photographie de Saint-Suaire et se rend compte que le négatif est beaucoup plus lisible que le positif, parce que là aussi le positif est très informe et très illisible. Et il dit qu'il a une révélation, et c'est cette image qui va circuler, qui va en fait fabriquer la relique du Saint-Suaire.
Et dans le cas du Boli, en fait, c'est nous qui faisons l'image, c'est ça?
Oui, puisque c'est notre regard qui le fabrique. D'ailleurs, à propos du Saint-Suaire, Pierre-Olivier Dittmar dit une sorte de thèse de Rorschach. Oui. Mais c'est un peu la même chose.
Oui, c'est un peu ça, oui.
Je crois que c'est le regard, effectivement, qui fait les choses. Et c'est d'autant plus troublant, puisque ça a été dit tout à l'heure, mais on peut encore y revenir. Nous qui ne sommes pas initiés, normalement, nous ne devons pas regarder cet objet. Et peut-être que c'est peut-être la grande question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. C'est, est-ce qu'il n'y a pas une double profanation, déjà, le fait de le regarder, puis de le passer au rayon X? Et puis, peut-être, dans un pays comme la France, où le droit moral est peut même être transmis aux héritiers pendant 70 ans sur le droit ou pas de montrer certaines images, on pourrait réfléchir à la manière de montrer, en tout cas, ce boli. C'est finalement ça, peut-être, que le boli met en crise, notre manière de mettre en image, de vouloir tout mettre en image.
Ça, c'est une question pour l'anthropologue Jean-Paul Collin. On pense d'ailleurs à Jean Bazin, qui a écrit aussi beaucoup là-dessus.
Oui, les tableaux. Oui, enfin, moi je dois beaucoup à Bazin, hein, c'était un collègue proche. Et alors, parce qu'en fait, il y a des gens à Ségou qui prétendent que tous ces objets du Kono qui étaient à Ségouville ont été recyclés dans les autres cultes. Et on n'en sait rien, personne n'est allé vérifier. Et moi je pense que ce qu'on appelle au Mali la Bamanaya, c'est-à-dire le paganisme, Il va survivre, il va pas disparaître, mais il va se dissoudre dans des milliers de petites compétences. C'est plus des compétences que des religions à l'intérieur des villages et des villes. Il n'y a jamais eu autant de possessions, par exemple, les transes de possessions à Bamako qu'aujourd'hui.
Maureen Murphy, cette puissance du regard, occidental ou non, d'une certaine manière, elle poursuit son œuvre sur ces objets. Alors, certains, elle les transforme en art et elle dialogue avec l'idée qu'on se fait de l'art. Mais on voit bien que pour vous qui, au fond, voulez déstabiliser la notion même d'art africain, ce qui est en jeu, c'est ce que vous appeliez justement dans votre égo-histoire. Notre capacité à voir autrement. Vous avez eu besoin d'aller voir ailleurs pour voir autrement, y compris l'art occidental?
C'est vrai que ce détour que j'ai fait par les arts d'Afrique permet de repenser nos méthodes, de repenser notre façon, notre rapport au monde aussi. Et l'idée de voir autrement, c'est l'idée de se déplacer, de décentrer les regards qui s'opèrent à la fois dans les musées, dans les universités et dans la création artistique. Je vole ton trop sexy.
Je vole ton baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiat qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas.
C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Maureen Murphy, Jean-Paul Collin et Manuel Charpie. Les références de vos livres, de vos articles, de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Dalia et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.
Pollen, jaune, maille.